Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je me réjouis de vous retrouver encore une fois pour marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Depuis le début de l'émission, il y a 4 ans, nous n'avons que rarement fait allusion à la marche en banlieue. Et pourtant, une proportion importante de la population du Québec a choisi de vivre dans ces endroits, en raison de l'espace, de la verdure et de la tranquillité que l'on y trouve. Pourtant, aussi attrayantes soient-elles, les banlieues n'affichent pas un très haut niveau de marchabilité. Il n'est pas facile de s'y déplacer à pied. C'est d'ailleurs le sujet de l'émission cette semaine, alors que nous poursuivons notre série d'entretiens dans le cadre de notre collaboration spéciale avec la Chaire d'excellence en recherche du Canada, Une seule santé urbaine, à l'Université de Montréal. Notre invité est Sébastien Laure, professeur titulaire à la Faculté de l'aménagement de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal. En compagnie de Sébastien, nous explorons le phénomène de la marche dans un contexte de banlieue. Nous soulevons les barrières à la marche dans cet environnement conçu en fonction de l'automobile et proposons des pistes de solutions pour rendre ce milieu plus accessible et convivial aux adeptes de la marche et des randonnées. En deuxième partie d'épisode, notre serein pèlerin Michel O'Neill nous parle de sa toute nouvelle trouvaille, une personne qui a exploré la belle ville de Québec de manière un peu spéciale. Un merveilleux complément à notre exploration de la marche en banlieue. Michel nous réserve, comme toujours, une petite surprise qui met cette fois en valeur ses talents de sociologue et de chercheur et de conteur. Alors, bonne écoute et bonne randonnée banlieusarde. Bonjour Sébastien et merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour cet entretien sur la marche et la banlieue.
Bonjour, d'abord, ça me fait grand plaisir d'être avec vous, pouvoir partager, discuter sur cette question-là qui est, de mon point de vue, très, très importante en fait, en aménagement, en urbanisme, mais aussi pour plein d'autres raisons comme la santé, le bien-être.
On sent que chez vous, c'est une passion là. On sent dans votre voix.
Oui. J'ai toujours été bien intéressé par les questions d'aménagement de la ville, les questions de mobilité, les questions d'habitation. Mais je me suis intéressé beaucoup à l'urbanisme et à l'aménagement des territoires, d'abord pour les personnes, en fait.
Ah oui, d'où est venu cet intérêt, cette passion?
Ben, les villes, en fait, c'est quelque chose de vivant, hein. Qui évolue, oui, oui. Qui se transforme. Quand j'étais beaucoup plus jeune que maintenant, j'aimais beaucoup voyager, mais j'aime toujours voyager.
Oui.
Puis de découvrir les villes, de voir comment, justement, elles se transforment, comment certaines décisions sur l'aménagement des environnements peuvent avoir un effet bénéfique, par exemple, sur les personnes, sur leur vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment cette relation-là entre l'environnement et les personnes qui m'a amené à m'intéresser à l'urbanisme. Et disons que c'est beaucoup l'intérêt... De voir les environnements urbains évoluer. Puis, j'ai commencé, comme je disais, par des voyages, mais maintenant, je m'intéresse à la ville de chez nous.
Mais vous avez étudié en urbanisme, c'est ça?
Oui, tout à fait. J'ai étudié en urbanisme. J'ai fait mon bac en urbanisme. Oui. J'ai fait ma maîtrise en architecture. Et j'ai fait mon doctorat en aménagement du territoire. Donc, je me suis intéressé aux villes et à leur aménagement, mm-hmm. à 3 échelles différentes, en fait.
qui sont?
L'échelle des territoires, plus proche de la géographie.
Oui.
Les grandes affectations qu'on peut donner au territoire, les constructions des grandes infrastructures, par exemple.
Mm-hmm.
À l'échelle de l'urbanisme, ben là, on réfléchit à la forme concrète que vont prendre les îlots, les immeubles, la voirie, oui, les parcs. Est-ce qu'on va interdire, est-ce qu'on va permettre la ville peut-être plus dans sa dimension réglementation? Et ma maîtrise, je l'ai faite en architecture.
Okay.
Donc, à l'échelle du bâtiment lui-même et du logement.
Donc, vous avez une connaissance tout azimut quand même du dossier.
Tout azimut, c'est un grand mot, là,
oui,
mais j'ai une bonne connaissance, en fait, comme je disais, des relations personnes-milieu.
Mm-hmm, oui. Alors, nous allons parler justement de marche en banlieue. Et au tout début, j'aimerais avoir ou connaître votre définition, votre conception de la banlieue. C'est quoi une banlieue aujourd'hui?
Physiquement, mm-hmm, ou fonctionnellement, les banlieues, c'est la périphérie ou les couronnes qu'on appelle dans notre jargon, de ce qu'on peut retrouver autour des quartiers centraux, autour des centres-villes. Donc, c'est différent de la ville.
Oui.
C'est moins dense, c'est de plus faible densité. On retrouve beaucoup d'espace entre les bâtiments, par exemple. Hein. C'est pas tout collé comme on peut avoir en ville, dans des quartiers,
oui,
urbains ou péricentraux. Donc, on retrouve des bâtiments souvent isolés, mm-hmm, sur un terrain,
oui,
avec du gazon, avec la verdure, avec des arbres.
Oui.
Donc, on a cette image-là de la banlieue qui est un environnement plus vert, plus calme, moins, mm-hmm, dense, voilà. Et donc, c'est les environnements qui vont entourer les grands centres-villes dans, disons, en Amérique du Nord, tel qu'on connaît la ville d'ici,
oui,
au Canada, aux États-Unis, en Australie.
Oui.
Aussi. Donc, c'est des environnements urbains, suburbains,
mm-hmm,
à caractère résidentiel très, très fort, en fait.
Hein. Oui.
On retrouve d'autres activités que des logements.
Oui.
Mais ce qui va dominer beaucoup, c'est le caractère résidentiel, le caractère plus calme, comme, mm-hmm, je disais.
Est-ce qu'on peut dire que la banlieue est née dans les années 40-50, surtout avec l'avènement de la voiture?
Exactement, en fait. La banlieue... Il y avait déjà autour des villes des villages. Mais la banlieue telle qu'on la connaît et telle qu'on l'a dans nos représentations aujourd'hui, la banlieue avec des pavillons résidentiels, ça s'est beaucoup développé avec le boom économique de l'après-guerre.
Mm-hmm.
Dans les années 50-60, c'est là qu'on a construit tout azimut, en fait, autour des grands centres, puis c'est là qu'on s'est étalé. On parle d'étalement urbain,
oui,
là, quand,
oui, oui,
quand il est question d'aménagement du territoire. Et donc, c'est la première couronne résidentielle qui s'est implantée au tournant, c'est ça, des années 50-60, autour des grands centres urbains, Québec, Montréal, mais aussi dans plein d'autres villes moyennes,
mm-hmm,
par exemple.
Mm-hmm. Vous avez voyagé beaucoup en Europe. Et est-ce qu'il y a une distinction d'une banlieue nord-américaine, comme on la connaît ici, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, et en Europe? Comment on décrit une banlieue en Europe?
Bien, une banlieue en Europe, on peut penser à des banlieues, des grands ensembles, par exemple, qu'on pourrait voir en France ou en Belgique ou dans des pays qu'on connaît bien. C'est pas nécessairement des banlieues pavillonnaires comme on a ici. Hein.
Okay, oui.
Pendant que nous, on construisait, eux reconstruisaient l'après-guerre.
L'après-guerre, voilà.
Et il y avait des questions d'urgence à loger beaucoup de personnes. Donc, on a construit des immeubles.
Oui.
De beaucoup plus forte densité, des grands complexes, des grandes cités. Je dirais que la banlieue telle qu'on la connaît ici, pavillonnaire,
oui,
avec un caractère très, très résidentiel, c'est arrivé plus tard en Europe. Là, je dirais à la fin des années 70, 80, 90. Donc, les lotissements, comme mm-hmm, on
oui,
les désigne en Europe, c'est plus récent, en fait.
D'accord. Ah, c'est intéressant quand même la distinction, là. La banlieue, comme on la connaît ici, est arrivée beaucoup plus tard en Europe. Mais nous sommes ici. nous allons parler de nos banlieues et nous allons parler de marche en banlieue. Et on n'associe pas souvent la marche et la banlieue.
Non, parce que comme vous l'avez évoqué, la banlieue, comme on la connaît ici, s'est développée dans les années 50-60 avec la voiture.
Mm-hmm. Oui.
Donc, la logique, en fait, de ce milieu de vie a été pensé pour des gens qui se déplacent en voiture.
Mm-hmm. Oui.
Et donc, ben, ça amène, disons, du point de vue de l'aménagement, ça amène des problèmes à deux niveaux. L'accessibilité et la proximité.
Oui.
L'accessibilité, ben là, il va y avoir plein de barrières à l'accessibilité.
Quelles sont ces barrières, justement?
Ben, ça peut être une autoroute qui va découper en deux segments, en deux secteurs, un quartier résidentiel.
Mm-hmm.
Vous allez être très, très proche de votre voisin, qui peut être de l'autre côté de l'autoroute. Mais il va falloir faire un grand détour pour aller le visiter.
Oui.
Donc, ça, c'est une première barrière assez évidente.
Ça, oui.
Il y a aussi des grands boulevards qu'on peut traverser, pas partout, à des intersections, qui peuvent être très, très éloignées les unes des autres, parce qu'on est dans une logique de voiture et pas de marche.
Oui.
Et donc, des grands boulevards, des boulevards tachereaux, comme on pourrait
s'imaginer. C'est ce qui me venait à l'idée, justement, oui.
Donc, ce n'est pas des barrières infranchissables comme une autoroute.
Oui.
Par contre, ce n'est pas très agréable, ce n'est pas très confortable. Puis on pourrait même dire que ce n'est pas très sécuritaire.
Sécuritaire, oui, c'est ça.
Pour le marcheur.
Oui. Mm-hmm.
Donc, ça, c'est un autre type de barrière.
Et souvent, dans les banlieues, il y a une absence de trottoir.
Oui, la banlieue a été pensée pour la voiture, ce qui veut dire que tout le réseau de rues est hiérarchisé.
Mm-hmm.
Donc, je vous mets en image un peu des rues en spaghetti
qui
vont tourner, qui vont provoquer beaucoup de détours parce qu'elles sont structurées avec une logique de voirie de premier niveau, niveau local.
Mm-hmm.
Donc, on va avoir des rues qui vont desservir des maisons. On va avoir des collectrices sur lesquelles les gens vont rouler vers une destination donnée. Donc, vont aller sur une collectrice, sur des artères, puis ensuite sur les autoroutes. Ce qui fait que ben, il n'y a pas de transit nécessairement sur les rues locales, où il y en a très, très peu, à part les gens qui peuvent habiter une rue qu'avec des maisons, s'il n'y a pas d'autres destinations que des maisons.
Oui.
Donc, le besoin de trottoir est plus ou moins pertinent dans la mesure où il n'y a pas de voiture.
Oui.
Où il y a les voitures que des gens qui habitent cette rue locale-là. Par contre, il y a souvent des trottoirs sur les collectrices, sur les grandes artères, sur les boulevards, etc. Mais des rues locales, c'est tout à fait vrai que souvent, il peut y avoir pas de trottoir ou un trottoir seulement d'un côté.
C'est ça. Est-ce que c'est un frein quand même à la marche ou c'est négligeable?
Bien, c'est sûr que pour certains profils de personnes, ça peut être un frein.
Oui.
Des personnes qui ne se sentiraient pas en sécurité de partager ou de marcher sur la même voie qu'une voiture ou des autobus.
Mmh.
Pour d'autres, ben, ça peut être un avantage. Donc, je dirais que là, on est sur des questions de préférence, peut-être, au niveau de profil de marcheur.
Mmh.
Mais c'est sûr qu'une voie avec beaucoup de circulation, une voie avec beaucoup d'activité, le trottoir est plutôt nécessaire parce qu'il vient éloigner la circulation des espaces de marche.
Oui. Est-ce que le manque de destination est important aussi comme frein ou comme barrière à la marche, des destinations où on peut aller à pied, par exemple?
Oui. Ça, je dirais que la question des destinations qui vont être mécaniquement ou automatiquement plus éloignées en banlieue, parce qu'on a des quartiers à caractère très, très résidentiel, que les commerces sont pas permis, nécessairement partout, mais à des endroits stratégiques, c'est-à-dire pas sur les rues résidentielles, ce qui va faire qu'on va devoir marcher si on veut faire les courses, si on veut aller à une clinique, si on veut faire toutes sortes d'activités, ça nous oblige à marcher, et ça nous oblige à marcher plus loin que si on était en ville.
Voilà, oui.
Et donc, ben, c'est certain que pour plusieurs personnes, ben, le réflexe automobile va primer sur le réflexe de la marche.
Mm-hmm.
Pour des raisons pratiques, pour plein de raisons, c'est souvent plus facile de prendre la voiture que de marcher.
J'imagine que, aussi, c'est un défi d'aménagement autant pour les instances publiques que pour les promoteurs immobiliers. Il faut quand même construire des secteurs qui sont rentables pour les promoteurs et qui sont agréables pour les citoyens et qui sont rentables, pour ainsi dire, pour une municipalité. Alors, on met tout ça ensemble. C'est quand même assez complexe.
C'est complexe parce que dans le monde dans lequel on vit, en fait, les gens en urbanisme, les professionnels d'aménagement qui travaillent dans les villes, vont en fait autoriser différentes activités, différentes fonctions et donc permettre des constructions de différentes activités à différents endroits. Mais ce n'est pas les villes qui disent du jour au lendemain, on ouvre un café sur le coin de la rue. Il faut permettre d'ouvrir un café, puis ensuite il faut chercher un commerçant qui est intéressé à ouvrir un café.
Oui.
Lui va faire son calcul, puis ben, évidemment, si on a une faible densité en banlieue, ben, ça peut être plus difficile à financer des activités économiques, mais aussi des services publics, là, mm-hmm. Comme le transport en commun, etc. Comme il y a moins de monde, ben, c'est moins évident aussi. Donc, ce que je veux dire avec cet exemple-là, c'est que c'est pas directement les gens en aménagement ou les urbanistes qui vont construire la ville, c'est par un équilibre, une négociation d'entrepreneurs qui veulent bien venir ouvrir des commerces. Et donc, toute la logique d'intervention urbaine doit tenir compte de cette difficulté-là. Évidemment, sur les espaces qui appartiennent à la ville, sur les espaces publics, là, les villes choisissent leurs projets, choisissent d'implanter des équipements. Et puis, ben ça, ça a une très, très grande valeur stratégique.
Mm-hmm. Oui.
C'est-à-dire que si on veut intervenir, on veut aménager un parc et réaménager un boulevard, ben ça, ça peut aussi intéresser en retour des commerçants ou des promoteurs qui pourraient être intéressés à venir s'implanter une fois les rénovations faites,
par exemple. Il y a un esprit de collaboration aussi, là, hein, qu'il faut alimenter, disons.
Tout à fait. Puis il y a les citoyens,
à
consulter aussi.
Voilà.
Dans la discussion.
Oui. Est-ce que le vieillissement de la population est un facteur aussi? Parce que je sais que le vieillissement, c'est un sujet qui vous intéresse. Est-ce que c'est un frein ou une barrière à la marche en banlieue?
Je dirais que c'est certainement pas un frein. Je dirais qu'il faut peut-être repenser l'aménagement, nos aménagements peut-être de façon différente. Je parlais du caractère résidentiel des banlieues tout à l'heure. On a bâti ces environnements-là avec des préoccupations pour la famille.
Oui.
Pour les enfants. Oui. On a des équipements scolaires, de loisirs, on a des écoles, des parcs, des terrains de baseball. On a beaucoup d'équipements qui sont liés aux enfants, à leur éducation, au sport, aux loisirs, mais on a peu de destinations commerciales au sein des quartiers. Mm-hmm. Mais il y a plein de banlieues que soit il y a moins d'enfants, on en fait moins qu'avant, puis les enfants ont vieilli, sont partis.
Oui, oui.
Puis en même temps, on a des gens qui ne veulent pas nécessairement déménager, qui sont bien en banlieue parce que c'est confortable. Et donc là, on a des gens qui habitent la banlieue en continu toute la journée. Ils ne partent plus le matin travailler pour revenir le soir. Donc la banlieue, si vous voulez, dans un contexte de vieillissement, il faut la repenser en termes d'accessibilité, en termes de proximité, en termes de destination, avec l'évolution de leur population.
Mm-hmm.
Puis en même temps, là-dedans, le danger, c'est qu'aménager des environnements que pour les personnes âgées, c'est pas plus souhaitable que seulement pour la famille.
Oui, oui, oui.
Parce que ça va être très difficile à renouveler qu'il y ait des jeunes qui viennent décider de rester en banlieue. Si tout est aménagé pour les bus, ce ne sera pas nécessairement intéressant pour eux.
C'est intéressant ce que vous dites, la maturité d'une banlieue. Mm-hmm. Je n'y avais jamais pensé parce qu'on a l'image d'une banlieue, bon, avec les autos, les familles et tout, mais comme vous dites si bien, les enfants grandissent, les enfants partent, les parents veulent rester, les grands-parents veulent rester. Donc, la dynamique, elle aussi, change, évolue avec le temps.
Oui, et cette dynamique-là nous suggère de penser nos aménagements de banlieue de la façon à faire évoluer la banlieue aussi, selon des modes de vie qui sont plus diversifiés qu'avant, en fait. Mm-hmm. Hein? On va avoir des retraités qui peuvent continuer de travailler, des retraités qui peuvent choisir de rester à la maison, de se divertir de plein de façons sur leur propriété, ou vont vouloir se déplacer dans l'agglomération. Donc, il y a plusieurs modes de vie différents. Ce qui est particulier à la banlieue, comme je le disais, c'est que si on réfléchit à faire marcher les personnes,
oui,
ben il faut jouer beaucoup sur l'accessibilité. Évidemment, réfléchir à la proximité, puis peut-être contrairement, ben pas contrairement en ville aussi, mais de façon beaucoup plus évidente, de réfléchir à des déplacements multimodaux.
Oui.
C'est-à-dire que si on veut marcher en banlieue, ça se peut qu'on prenne la voiture pour aller marcher.
C'est ça.
Alors qu'en ville, on marche un peu sans s'en rendre compte.
Et l'autre phénomène, bien sûr, c'est le télétravail, qui nous a amené beaucoup de gens à rester dans les banlieues plutôt que de venir en ville. Donc, ça aussi, c'est un phénomène plutôt récent, d'ailleurs.
Plutôt récent, qu'on voyait ici et là, mais qui s'est bien implanté, en fait, avec la pandémie puis avec les confinements. Ce qui veut dire aussi, c'est que si on travaille à la maison toute la journée, à l'intérieur, ça se peut qu'on soit intéressé à marcher un peu plus. Mais encore là, comme je disais, c'est probablement des raisons de marcher ou des types de marches différentes que si on était en ville.
Oui.
La marche de santé, aller prendre un bain de nature, aller prendre l'air, on peut le faire en ville. Mais les raisons, quand on regarde dans des enquêtes, on voit que, en fait, on marche pour des raisons différentes en banlieue qu'en ville. En ville, on va marcher pour faire les courses, on va marcher pour aller travailler, on va marcher sans s'en rendre compte. Alors qu'en banlieue, la marche est souvent l'activité.
Oui.
C'est pas aller faire l'épicerie, mais c'est plutôt d'aller en tout soirée, simplement
c'est ça,
marcher.
Oui.
Ce qui nous amène à réfléchir, si on marche pour des raisons différentes, ben, des logiques probablement d'aménagement conséquentes.
Alors, nous prenons une courte pause musicale et nous revenons justement aux solutions. On fait quoi maintenant? Nous sommes en compagnie de Sébastien Laure. Nous parlons de marche en banlieue. Alors Sébastien, nous avons parlé en début d'émission des barrières, des freins à la marche. Alors maintenant, pensons aux solutions. Et vous faisiez allusion au besoin de changer de paradigme d'approche. Ça veut dire quoi? Comment on fait pour rendre la banlieue agréable aux marcheurs?
Ça, c'est la grande... une des grandes questions... qu'on a sur la banlieue, déjà, c'est d'imaginer des options autres que la voiture pour se déplacer. Donc, il y a toute une question du transport en commun, de toutes sortes, des bus, des tramways, etc. Donc, les métros, les REM de ce monde. Donc, ça c'est déjà très, très bien. De se mettre, en fait, à la place ou dans une logique de marcheur, donc de comprendre les modes de vie des personnes.
C'est du point de vue du marcheur. Là. On se met à la place du marcheur.
Exactement. Et donc, c'est là qu'on peut approcher, en fait, toutes les pénibilités qu'on peut imaginer, mais qui viennent souvent de problèmes liés à l'accessibilité et à la proximité, donc les différentes barrières à la marche. Donc, on peut aménager, par exemple, des destinations comme une bibliothèque, comme un centre commercial, comme des équipements comme ça qui seraient très, très bien aménagés sur leur propre site. Mais quand vient le temps de se déplacer, quand on réfléchit en parcours, puis pas en parcours d'automobiliste, mais en parcours de marcheur, ben là, on se met à observer vraiment beaucoup de contraintes. Ça peut être un parcours qui passe sur une grande voie qu'il faut traverser. Donc là, il y a des gens qui se sentiront pas à l'aise ou en sécurité vont prendre la voiture plutôt. Ça peut être à destination des seuils ou des marches qu'il faut monter.
Oui.
Puis qu'on peut avoir une autonomie limitée. Ça peut être un changement de propriété qui fait que le trottoir est discontinu ou le trottoir change de matériau. Donc, on a plein de... On a des obstacles qui sont assez évidents, mais il y en a une multitude qu'on voit quand on fait, par exemple, des enquêtes, comme on fait avec des personnes âgées, avec des personnes limitées dans leur autonomie, avec des jeunes ou avec... Donc, il y a plusieurs obstacles physiques et fonctionnels qui font que marcher, ça peut être difficile. En plus que les distances sont plus longues en banlieue. Donc, si on se met en mode solution... Ben, il faut comprendre les problèmes du point de vue des marcheurs, puis il faut pouvoir les identifier, puis ça peut être très, très fin comme problème.
J'imagine qu'une façon de le faire, c'est de prendre une marche, justement, d'aller dans une banlieue. Ça serait intéressant de le faire, vous me donnez une bonne idée, là, d'aller, je ne sais pas moi, à Brossard ou un peu partout, puis marcher dans une banlieue et d'identifier moi-même les obstacles, les barrières à la marche. Ça pourrait être intéressant.
Bien, ça nous ferait plaisir d'y aller avec vous, en fait. C'est ce qu'on fait dans nos enquêtes.
Oui, c'est ça, dans vos enquêtes. Oui. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est un rendez-vous. On se donne rendez-vous, là. Mais pour revenir à certaines des solutions, il y a certains îlots là, qui sont marchables, disons. Là. On parle de cette expression parfois, marchabilité. Il y a des îlots, des endroits qui sont marchables, mais qui sont assez distants l'un de l'autre. C'est un peu ce que vous disiez, peut-être, d'aménager un transport pour permettre aux gens d'aller d'un endroit marchable, pour ainsi dire, à un autre. Ça, c'est une solution.
Oui, puis dans nos travaux, en fait, c'est peut-être un peu technique ce que je vais dire, mais quand on analyse la marchabilité d'un espace, on peut avoir plusieurs critères qu'on va observer dans l'environnement de votre îlot que vous dites à un autre îlot. Ces critères-là, c'est des critères morphologiques, donc la forme de l'environnement qu'on peut avoir, par exemple la largeur de la rue, la présence de trottoirs. Mais encore faut-il que le trottoir soit assez large puis en bon état. Donc, on peut aussi avoir des critères associés à la nature. Est-ce qu'il y a des arbres qui font de l'ombre l'été quand il fait très, très chaud? Donc, on a toute une série de critères comme ça qu'on utilise pour faire un diagnostic, en fait, dire est-ce que cet environnement-là est marchable ou pas, ou quel est son niveau de marchabilité. Donc ça, c'est des critères de ce que les ingénieurs, ce que les travaux publics, ce que les gens en urbanisme vont vouloir implanter pour des questions de sécurité, des questions d'accessibilité, des questions de cohabitation des différents utilisateurs de la route, par exemple. Mais il y a toute une série de critères beaucoup plus fins, beaucoup plus sensibles qu'on peut imaginer.
Tels que?
Ben la vitesse des véhicules, par exemple.
Ah ben oui, oui.
Le bruit. Qu'on peut entendre. La présence de la végétation, la présence d'animaux, la présence de différents attributs qui ne sont pas que des bâtiments, puis des rues, puis des trottoirs.
On pense à la biodiversité souvent, oui.
Exactement. Oui. Et ça, c'est prouvé dans des recherches que si on joue, évidemment, il faut de la sécurité. Mais si on arrive aussi à jouer sur des critères plus liés à l'expérience de l'environnement par les personnes, bien là, on améliore beaucoup plus la marchabilité. Puis il y a des gens qui vont choisir de marcher parce que c'est agréable.
Oui.
Donc, ces deux dimensions-là, elles sont incontournables de mon point de vue pour pouvoir dire, dorénavant, on change de paradigme, puis on ne fait pas juste mettre des trottoirs d'une telle largeur, mais on a vraiment une préoccupation sur la marchabilité de l'espace.
J'ai un exemple qui n'est pas tout à fait une banlieue, mais on parle de ces îlots là qu'on veut rendre accessibles. On revient au Vieux-Longueuil, parce que nous habitons tous les deux le Vieux-Longueuil, c'est un bel endroit. Et je pensais à ces deux îlots, le parc Michel Chartrand, à une extrémité, si on veut, et l'île Sainte-Hélène, l'île Notre-Dame, qui est reliée par une piste cyclable, qui est aussi une marche, une piste piétonne. C'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est le concept de relier ensemble des îlots qui sont très marchables par des pistes.
Des destinations,
c'est ça, oui.
Intéressantes dans les deux exemples que vous donnez. Là, c'est encore plus intéressant parce que c'est des destinations où on va marcher.
Oui, justement, oui, c'est ça.
Donc, quand je parlais tout à l'heure de multimodalité, on peut s'y rendre à pied. si on n'est pas trop loin, parce qu'on s'entend qu'entre l'île Sainte-Hélène puis le parc Michel-Chartrand, à pied, ça peut être long.
C'est à peu près 12 kilomètres.
C'est ça.
Mais c'est très beau.
C'est très beau, ça, c'est certain. Et donc, des destinations comme ça, elles sont stratégiques pour aller marcher. Elles sont stratégiques pour les gens qui habitent proche. Hein, on pourrait faire un rayon d'un kilomètre autour. Ça devient une destination intéressante, l'une et l'autre. Mais de les relier entre elles, là, c'est encore plus intéressant. Puis le parcours devient un parcours intéressant pour y greffer d'autres destinations.
Oui.
Sur les 12 kilomètres que vous parlez, bien, entre les deux, on peut avoir des zones où on met des commerces, où on met des restaurants, qu'on met des terrasses. Si on a à réfléchir sur des parcours de marche, bien, on peut les intégrer avec du transport en commun. Et donc, quand on parlait de changer de paradigme, c'est de réfléchir à des opportunités, à des destinations clés et à d'autres façons de se déplacer que la voiture.
Mm-hmm.
C'est pas de l'exclure, la voiture. Mais c'est...
Non, elle fait partie de la vie quand même.
Elle fait partie de la vie, mais tous les autres modes de transport, même ceux motorisés, bus et compagnie, et il faut marcher pour prendre le bus aussi.
Ben oui. Ce qui nous amène à une question centrale, est-ce qu'on peut transformer une banlieue existante pour augmenter la marchabilité? Est-ce possible?
Ça, c'est un grand défi. Puis je dirais que c'est un défi pour les urbanistes dans les prochaines années. De pouvoir arrêter de s'étaler ou s'étaler moins, mais d'intervenir surtout sur les milieux déjà construits. La banlieue, ça pose un grand défi parce que on y retrouve beaucoup de propriétés privées.
Oui. Ouais.
Si on a à traverser quelques kilomètres, ben on peut compter plusieurs dizaines de propriétaires différents.
Mm-hmm.
Et donc, si on veut intervenir dans des milieux comme ça, c'est très difficile puisqu'il faut s'entendre avec beaucoup de monde et que l'emprise des villes qui ne possèdent en termes d'espace public que la rue et quelques terrains ou quelques destinations, mais ce qui va prédominer, c'est de la propriété individuelle si on est dans des secteurs résidentiels. Ce qui va être clé pour la banlieue, c'est des espaces, disons, stratégiques. Que ce soit des lieux publics comme une bibliothèque, un centre communautaire,
oui.
Maison de la culture, etc. Mais ça peut être aussi des destinations clés privées comme un centre commercial, comme tout ce qu'on peut imaginer comme commerce ou service. Donc là, de vouloir transformer la banlieue puis d'amener des modèles plus urbains en banlieue puis dire on va faire des avenues du Mont-Royal partout, pas possible.
Oui.
Ça va être difficile.
Mm-hmm.
Et donc là, ben, des équipements, comme vous l'évoquiez, des parcs, des centres commerciaux, des destinations publiques deviennent des destinations clés où on peut réfléchir en termes de parcours pour ne pas transformer tout, mais transformer des secteurs qui sont vraiment stratégiques, y compris des secteurs qui peuvent être au sein des quartiers résidentiels.
Et j'imagine qu'une collaboration publique-privée pourrait accélérer ce processus-là. Il y a un intérêt pour les deux parties.
C'est, d'après moi, inévitable, parce que les acteurs privés sont incontournables dans le monde dans lequel on vit, ne serait-ce que pour le logement, les activités commerciales, etc. Et des partenariats seraient à faire aussi, mais de mon point de vue aussi en incluant des citoyens, en fait.
Est-ce qu'on pourrait penser aussi à promouvoir la marche et promouvoir la présence de marcheurs dans des banlieues?
Ben ça, oui. Puis il y a beaucoup d'initiatives qui existent déjà, des clubs de marche. Puis pour faire écho aux acteurs privés, bien, il y a des clubs de marche, par exemple, dans des centres commerciaux.
Oui.
Donc, les gens vont marcher avec la collaboration des propriétaires de centres commerciaux qui sont chauffés l'hiver, qui sont climatisés l'été. Donc, c'est des occasions, par exemple, pour les personnes âgées, de pouvoir rester actives et rester mobiles, en fait. d'avoir accès à ces commerces-là. Il y a évidemment des clubs de marche à l'extérieur, pas juste dans les centres d'achat non plus. Donc, il existe beaucoup d'initiatives, puis c'est pour ça que je parlais d'inclure les citoyens puis la perspective communautaire dans les décisions. Déjà, les gens vont, si on les écoute, ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils préfèrent, les milieux qui sont privilégiés pour marcher. Donc, les partenariats sont tout à fait souhaitables.
Oui. Et en faisant la promotion de la marche et des clubs de marche, par exemple, si on peut créer un engouement en même temps, de façon parallèle, il y a un besoin chez les automobilistes de, je dirais, respecter les marcheurs, respecter le phénomène des marcheurs. C'est une espèce de vivre ensemble nouveau qu'il faut promouvoir dans une banlieue.
Oui, tout le monde est marcheur, hein, même les automobilistes. Donc, de pouvoir déjà réfléchir à ça, c'est important, mais c'est sûr aussi que l'aménagement puis la qualité de l'aménagement, à la fois des destinations, mais aussi des parcours qu'on pourrait imaginer, qu'on pourrait réfléchir, sont importants, en fait, dans leur aménagement pour diminuer les risques de problèmes de sécurité, mais il y a aussi le savoir-vivre là-dedans.
Il y a un petit peu l'œuf et la poule aussi, hein. On veut encourager les gens à marcher, encore faut-il que l'infrastructure et la réception soient là. Et j'ai un exemple qui me vient en tête. Mon frère habite dans une municipalité à l'ouest d'Ottawa. C'est une banlieue, mais il peut quand même se déplacer à pied pour aller à la banque, à la bibliothèque, au petit centre d'achat et ainsi de suite. Donc, il y a possibilité de construire ou de peut-être réaménager des banlieues qui font en sorte que c'est très agréable pour les marcheurs.
Tout à fait. On peut parler de la ville des 15 minutes, on peut parler des environnements, disons, favorables aux courtes distances, des environnements qui sont, disons, avec une plus grande mixité. On va retrouver des activités qui sont mélangées au résidentiel, si on veut. C'est pas que des maisons ou des appartements, mais il y a des commerces. Donc ça, c'est sûr que si on retrouve ça à proximité, ça donne plus d'occasions de marcher, évidemment. De repenser la ville, je dirais, avec cette logique-là, ça va assez bien. De repenser la banlieue avec cette logique-là, on retombe un peu au problème de définition ou de caractéristique même de la banlieue, qui est de moins grande densité. Donc, d'avoir des petits pôles comme ça qu'on peut imaginer un peu partout, ça devient peut-être un peu difficile, ou en tout cas plus ardu qu'en ville, parce qu'il y a moins de... Il y a même le monde au pied carré.
Oui.
Mais je dirais que ça devient encore plus difficile dans la période post-pandémique, avec le commerce en ligne, avec les livraisons, avec... là, on parle, si on se met du côté des commerçants, du côté des entrepreneurs, ben ça devient beaucoup plus difficile de rentabiliser des commerces qui où il n'y a pas beaucoup de monde autour, ou des commerces de détail que les gens fréquenteront pas. Donc, il y a un équilibre, j'ai l'impression, qu'on est encore en train de chercher après la pandémie, de bien comprendre, en fait, les modes de vie qui ont évolué, puis les comportements des consommateurs. Mais je dirais, en ville, c'est déjà difficile. En banlieue, ça risque d'être difficile. Donc là, il y a peut-être des stratégies qui pourrait être, on parlait de destination clé, de parcours stratégique entre les destinations. On peut aussi réfléchir à des polarités ou des centralités ou des nœuds, là, c'est très jargonné ce que je dis, des pôles de transport où on a des gares. On a des destinations qui vont attirer beaucoup de personnes, qui vont se déplacer, qui vont amener tout le monde au même endroit. Donc, si on réfléchit à des gares du REM, des gares, des stations de métro, si on réfléchit à des points d'accès comme ça au transport en commun, puis qu'on met des commerces, qu'on les transforme en destinations intéressantes, ben là, on se retrouve à avoir des points qui sont distribués. Des gares, il y en a plus qu'une en banlieue. Donc là, si on est capable de les imaginer un peu, je dirais, comme des modèles européens, ou que dans une gare, ben on va avoir une épicerie, on va avoir peut-être des cliniques médicales. Ça va être un point d'accès au réseau de transport en commun, mais en même temps, ça va être un hub de services pour le voisinage qu'on retrouve. Donc là, si on réfléchit selon une logique de marcheur, encore là, ben là, d'intervenir pour améliorer l'accessibilité à des nœuds comme ça, ben là, moi, je suis convaincu qu'il va y avoir plus de monde qui vont marcher. Peut-être même pas pour aller prendre le train, mais qui vont aller à ce point de service-là, qui va être proche de chez eux, tout simplement. Donc, l'opportunité du transport en commun pour réfléchir à la marche et aux marcheurs, d'après moi, elle est très, très importante, puis elle est très prometteuse pour repenser la banlieue.
Alors, en terminant, c'est l'avenir de la marche en banlieue que vous venez de décrire.
Peut-être, en tout cas de mon point de vue, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, mais de pouvoir se placer vraiment selon le point de vue du marcheur. Puis là, on a parlé beaucoup de commerce et de services, mais il y a aussi le verdissement, l'accès à la nature qu'on peut aussi imaginer, comme on disait au tout début de l'entrevue. Les banlieues, c'est souvent très, très vert, ou en tout cas associé à des espaces où on retrouve une omniprésence de d'arbres et de nature. Donc, de ne pas oublier ça non plus dans l'aménagement, parce que les gens qui vont habiter la banlieue, quand on regarde des études sur les choix résidentiels, ben, le critère d'accès à la nature est hyper important.
Oui, de plus en plus.
Donc, si on se met à transformer la banlieue comme des villes, les gens, ils vont peut-être aller plus loin encore.
Alors, Sébastien, plusieurs pistes de réflexion, mais je vous remercie beaucoup de nous avoir fait ce cheminement.
Bien, merci beaucoup, ça me fait grand plaisir. Je serai présent pour une prochaine.
Excellent. Au cours de notre entretien avec notre invité Sébastien Laure, nous avons évoqué plusieurs thématiques en lien avec la marche dans les banlieues. L'une d'entre elles porte sur les enjeux dans un contexte de vieillissement. J'aimerais souligner ici un excellent mémoire présenté à ce propos en 2020 par Mathilde Loisel, alors étudiante à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage, faculté de l'aménagement à l'Université de Montréal. Mathilde y propose une stratégie pour rendre des environnements de faible densité plus favorables à la marche pour les personnes âgées. Nous mettrons d'ailleurs sur le site jemarchepartout.com le lien où vous pourrez télécharger ce mémoire que je vous recommande fortement d'ailleurs. Je profite de l'occasion pour vous en résumer les grandes lignes. D'entrée de jeu, l'étude note que les administrations publiques, tout comme les prestataires de services publics et privés, ajustent leurs pratiques pour tenir compte des besoins nouveaux et surtout grandissants associés au phénomène du vieillissement de la population. Cela s'ajoute aux défis existants, dont l'accès aux soins et aux ressources d'aide, les risques d'exclusion financière, sociale et spatiale de nombreux aînés vulnérables, et le défi financier posé par les besoins particuliers de cette proportion croissante de la population. L'étude souligne par ailleurs que l'augmentation du nombre des retraités transforme le visage des milieux de vie, chamboulant les habitudes de fréquentation des espaces publics, tout en offrant l'opportunité de revoir notre rapport fonctionnel et temporel aux espaces de vie. Elle explique que cette réalité est encore plus marquée dans les milieux de banlieue où la concentration de personnes âgées s'avère souvent supérieure à la moyenne québécoise et où le rétrécissement du périmètre de déplacement que l'on connaît avec l'âge pose un enjeu d'accès aux ressources d'autant plus important. Ainsi, l'étude se penche avant tout sur la mobilité chez les personnes âgées vivant en banlieue. Elle s'y intéresse en banlieue comme forme de mobilité, mais aussi comme vecteur de lien et de maintien de la sociabilité. Le rythme lent de la marche et le défi posé par la distance ont mené de nombreux chercheurs à prioriser les milieux urbains centraux comme terrain d'étude, concluant à l'importance de la densité résidentielle et de la diversité fonctionnelle. Bien que hautement pertinent pour planifier les nouveaux développements, et les initiatives de requalification des milieux, les résultats de ces recherches laissent, somme toute, peu de solutions concrètes pour une majorité de milieux de vie, comme la banlieue de faible densité et aux fonctions fortement ségrégées. Ainsi, cette étude propose, dans un premier temps, d'adapter les critères des environnements favorables à la marche contenus dans la documentation scientifique disponible au contexte spécifique de la banlieue. Cette première partie de recherche a pour objectif de proposer une stratégie d'intervention suburbaine qui contribuera à l'amélioration des environnements de marche des milieux de faible densité. En prenant appui sur la stratégie développée dans la première partie, la recherche, dans un second temps, propose des interventions d'aménagement pour le secteur Pontvio-Laval-des-Rapides à Laval, en banlieue de Montréal. Milieu de banlieue exemplaire du modèle nord-américain des années 1960 et 1970, ce secteur bénéficie d'une infrastructure multimodale régionale d'importance, d'attraits paysagers notables et de nombreux espaces verts, en plus d'accueillir des complexes résidentiels pour personnes âgées d'importance en nombre de logements. Cette seconde partie de l'étude vise à mettre à l'épreuve la stratégie développée dans le but, d'une part, d'en affiner les composantes pour le contexte de la banlieue et, d'autre part, d'offrir des pistes d'intervention porteuses pour améliorer l'environnement de marche des personnes âgées de secteurs comme ceux du Pontvio-Laval, des Rapides à Laval. J'espère que cette brève présentation a suscité votre intérêt pour en savoir davantage. Je vous rappelle donc que vous pouvez télécharger ce mémoire gratuitement et que vous trouverez l'adresse sur le site jemarchepartout.com sous la description de cet épisode de Marcher vers le bien-être. Et dans quelques instants, place à Michel O'Neill et sa toute nouvelle trouvaille du serein pèlerin. Bonjour Michel et bienvenue à cette nouvelle chronique des trouvailles du serein pèlerin.
Eh bien, bonjour Denis, comme d'habitude, toujours agréable de se retrouver.
Alors Michel, vous nous proposez aujourd'hui une trouvaille à propos d'une personne qui a marché dans votre belle ville de Québec de manière un peu spéciale. Qu'en est-il exactement?
Denis, comme vous savez, ma chère et magnifique ville de Québec est célèbre à toutes sortes d'égards. C'est une ville reconnue par l'UNESCO comme une ville du patrimoine mondial. L'UNESCO étant cette fameuse agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Puis l'UNESCO a aussi reconnu Québec pour une autre raison, comme ville de la littérature. Depuis octobre 2017, c'est la première ville francophone dans le monde qui a été reconnue à ce titre-là. Il y a 53 villes dans le monde qui sont reconnues comme des villes de littérature, réparties dans 34 pays sur 6 continents. Puis tout ça, ça s'insère dans un réseau qui s'appelle les villes créatives de l'UNESCO, où il y a des villes qui sont choisies, si on peut dire, autour de 7 domaines, qui sont l'artisanat et les arts populaires, le design, les films, la gastronomie, la littérature, la musique et les arts numériques. Alors, c'est dans ce contexte particulier-là qu'il y a eu en 2024 quelque chose d'assez particulier, ça ressemble à la chaise musicale, en fait.
Ah oui.
C'est comme une résidence circulaire d'écriture entre des villes qui font partie des villes de l'UNESCO de littérature.
Ah tiens.
Alors, ça marchait de la façon suivante. Il y avait 5 villes qui ont été retenues. Norwich, au Royaume-Uni. Bucheon, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, en Corée du Sud. Barcelone, en Catalogne. Cracovie, en Pologne. Et Québec. Puis ça se passait qu'il y avait une personne de Québec qui allait à quelque part. Dans le cas présent, c'était à Bucheon. La personne de Bucheon allait dans une des autres villes. Puis nous, en fait, est arrivé chez nous, à Québec. Dans ce contexte-là, une personne qui venait de Norwich, au Royaume-Uni, qui s'appelle Kate Brook. Et Kate Brook, c'est une jeune écrivaine de romans. C'était son deuxième roman sur lequel elle travaillait. Elle a été comme en résidence d'écriture à la Maison de la littérature de Québec pour le mois d'août 2024. Et pendant ce temps-là, il y a une personne qui s'appelle Judy Quinn de Québec qui a été à Bucheon en Corée, etc. Et s'est tournée comme
d'accord.
Ça. Donc, c'est dans ce contexte un peu particulier-là qu'en plus de travailler à son roman, elle a écrit un court texte intitulé « Québec à pied ». Qui a été publié en janvier 2025 sur le site de la Maison de la littérature et où elle parle, entre autres, d'une façon un peu particulière de marcher, notamment dans les banlieues.
Ben, c'est le cas de le dire, Michel, la ville de Québec n'a jamais fini de nous étonner et surtout de nous fasciner. Alors, parlez-nous un peu d'où Kate Brooke a marché.
Je vais commencer d'abord par vous lire un premier extrait de ce fameux texte dans la traduction à l'écran en anglais, mais ça a été traduit par des personnes qui s'appellent Pascal Rowe et Caroline Descostes, et où elle parle un peu de son rapport à la marche en général puis de comment ça s'est passé à Québec en particulier. Alors, ça va comme suit. Quand je suis arrivé, la beauté de la ville de Québec m'a surprise. Il y avait tant à explorer, tellement de rues, de bâtiments, de paysages à découvrir, qu'il me semblait presque criminel de passer des heures à fixer un document Word sur mon ordinateur portable. Mais écrire, plus spécifiquement écrire mon deuxième roman, était ce pourquoi j'étais là. J'avais donc jamais bénéficié d'autant de temps pour m'y consacrer, puis il me semblait tout aussi criminel de ne pas utiliser ce temps à bon escient. J'ai donc fait de mon mieux pour atteindre un équilibre entre progresser dans l'écriture de mon roman et être pleinement présente dans le décor qui m'entourait. Écrire est un de mes passe-temps préférés, mais mon autre passe-temps préféré, c'est marcher. Aussi, lorsque je ne faisais pas l'un, je faisais l'autre. Et bien que je n'ai pas de permis de conduire, j'ai réussi à marcher dans des paysages magnifiques en dehors de la ville, principalement grâce à l'auteur Jean Désy, un ami de la Maison de la littérature qui m'a amené dans les montagnes de la Broye-du-Nord pour une randonnée. Lorsque mon partenaire Roberto m'a rendu visite la dernière semaine de ma résidence, Jean nous a fait faire le tour de l'île d'Orléans et nous a montré son extrémité nord, sauvage et belle. Une forêt épaisse laisse place à une grande plage rocheuse qui donne sur le fleuve Saint-Laurent et les collines boisées du Cap-Tourmente. Plus tard cette semaine-là, Roberto et moi avons pris une navette pour le parc national de la Jacques-Cartier. Nous nous sommes promenés au milieu d'espèces d'arbres inconnus. Nous avons à peu près abandonné notre nervosité toute européenne de rencontrer un ours. Nous avons pique-niqué en surplomb d'une vallée boisée et rafraîchi nos pieds post-randonnée dans la rivière large et peu profonde. De telles promenades ne nécessitent aucune explication. Leur valeur est évidente. Alors, ça nous place un peu, dans le fond, l'esprit dans lequel elle a abordé la marche pendant qu'elle était à son stage d'écriture.
Oui, oui, ça me ravit. Et je crois, Michel, qu'elle nous parle ensuite d'un périple un peu spécial qu'elle a fait entre son lieu de résidence, tout près de la Maison de la littérature, située au cœur du Vieux-Québec, et la chute Montmorency.
Oui, en fait, Denis, c'est vrai qu'elle nous parle un peu de marcher dans des conditions assez inusitées.
Oui, et
c'est ce que je trouvais qui était intriguant dans son parcours. Alors, je vous lis un deuxième extrait. Lorsque je suis dans des villes inconnues, je m'embarque dans des aventures moins faciles à expliquer, des randonnées urbaines irrationnellement longues et inefficaces, qui évitent délibérément les bus et les systèmes de location de vélo, même si, ou peut-être parce que, ils me conduiraient à ma destination en moins que la moitié du temps. C'est pour moi parfaitement logique de passer des heures à déambuler dans des rues qui n'ont rien de remarquable, au service d'une sorte de projet de cartographie intérieure. Mais la plupart du temps, je ne partage pas mes plans parce que je soupçonne que les gens me regarderont confus et me demanderont « pourquoi? » Lors d'un tel voyage, j'ai marché depuis mon appartement dans le Vieux-Québec jusqu'aux chutes Montmorency, en passant par le domaine Méseret et le long du sentier transcanadien. L'idée de prendre un chemin qui traversait le Canada d'un bout à l'autre était pour moi irrésistible, même si je voyais sur la carte que cette section en particulier est bordée par l'autoroute sur des kilomètres. Ce n'est pas l'attrait le plus charmant de la ville de Québec, c'est certain.
Oui.
Et pourtant, il y a une valeur, je pense, à imprimer quelque chose dans sa mémoire de cette façon. On se rappelle des endroits qu'on a marchés parce qu'on se rappelle comment on se sentait pendant qu'on les marchait. Dans le cas présent, j'avais chaud, je craignais les coups de soleil et la déshydratation, et j'étais amusé par ma propre folie légère, mais totalement engagé. Mon trajet de retour m'a conduite à travers la banlieue. Même si j'étais heureuse d'avoir vu les chutes, ou les chutes Montmorency à l'autre bout, qui ne manquent pas de provoquer l'admiration, j'étais plus heureuse, d'une certaine façon, de voir les banlieues. Parfois, lorsque je visite un lieu inconnu, les poches de banalité me font une plus grande impression que les grandes attractions. Les quartiers résidentiels tranquilles me semblent anodins, qui semblent tout à fait anodins aux yeux de leurs habitants, mais pour un étranger, ils sont totalement intrigants. À mes yeux d'Européenne, les banlieues que j'ai traversées représentaient la quintessence de l'Amérique du Nord. Des maisons individuelles, une voiture dans chaque allée, des pelouses spacieuses, pas de trottoir. C'est une esthétique qui m'est à la fois familière parce que je la vois tout le temps dans les films et inconnue parce que ça ne ressemble en rien aux quartiers résidentiels du Royaume-Uni. Le fait d'être immergé en trois dimensions dans un environnement que j'ai l'habitude de voir en deux dimensions est en soi un plaisir légèrement troublant. mais je suis également conditionné à m'attendre à ce qu'on parle anglais dans de tels lieux, avec un accent qui n'est pas le mien. Entendre et voir du français à la place, une langue que j'associe si inextricablement à l'Europe continentale, a bouleversé mes attentes. C'était étrange et déstabilisant dans le meilleur sens du terme. Quand je suis rentré chez moi, après ce trajet aller-retour de 30 km, j'ai enlevé mes chaussettes de randonnée et découvert une nouvelle blessure, des plaies de frottement que j'ai inspectées avec fierté. Ce soir-là, j'ai savouré l'épuisement qui vient après une journée à mettre un pied devant l'autre. Il s'agit, comme Frédéric Gros l'écrit dans « Marcher, une philosophie », d'un, entre guillemets, « épuisement radieux ». Il s'accompagne de la satisfaction profonde d'avoir laissé à son corps le temps et l'espace de ne faire que ce pour quoi il a été créé, ce pour quoi il a évolué. Et le lendemain, à nouveau, j'ai écrit. Alors, comme on peut le voir dans ce deuxième extrait-là, on a un point de vue assez particulier, oui, sur l'intérêt de marcher dans des lieux qui, en général, on pourrait peut-être trouver plates ou inintéressants. Ça me rappelait, dans le fond, ce qui se passe sur les chemins de Compostelle, où on a l'impression, quand on ne le sait pas, que les chemins de Compostelle, c'est tout bucolique, etc. Mais il y a des grands bouts, c'est le long des autoroutes. Il y a des grands bouts que c'est quand on rentre puis on sort des villes, dans des parcs industriels, c'est vraiment pas du tout, bucolique. Mais moi, personnellement, j'avoue que je détestais pas ça. C'est peut-être mon œil de sociologue, dans le fond, qui aime ça. Parce que ça met une certaine diversité dans les genres de choses qu'on voit. Et puis, ça nous fait marcher dans des contextes un peu différents.
Alors, merci, Michel, de nous avoir réveillés avec Kate Brook à l'intérêt de ne pas juste marcher dans des endroits spectaculaires de grande nature. Très bien. D'ailleurs, cela nous invite à porter attention à ce que peuvent nous révéler, lorsqu'on s'y promène, des endroits aussi apparemment banals que les quartiers de banlieue.
Bien, bienvenue, Denis. Et puis, je vous laisse avec la phrase de conclusion de Kate Brook dans son texte. Alors, elle dit « Dans la ville de Québec, j'ai écrit une histoire et j'en ai marché beaucoup d'autres. Et ces histoires se mélangent et s'entrelacent dans mon esprit et dans mon cœur et dans mon corps, de plus de façon que je ne saurais l'exprimer. »
Magnifique. Voilà. Alors, à bientôt, Michel, pour votre prochaine chronique des trouvailles du serein pèlerin.
Eh bien, à bientôt, Denis, et à bientôt, tout le monde.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier nos invités, Sébastien Laure et notre serein pèlerin, Michel O'Neill. Merci également à Charles Saint-Laurent-Carrier, à la technique et au montage. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Vous pouvez également y laisser suggestions et commentaires sur l'émission. Je vous laisse cette semaine avec une pensée de Pierre Jolivet, justement à propos de la banlieue. La banlieue est un paysage qui a de la gueule. Il y a des perspectives, des lignes de fuite. L'œil a de quoi être nourri. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.